podcast.com. Essaye ça.
Moi, je disais non, on en prend un autre, Puis là, Jason,
ben oui.
Ça fait 170 épisodes, on peut bien la réutiliser. Fait que, en background aujourd'hui, vous avez l'excellente trame sonore de Faxanadu, un jeu qui se rejoue quand même assez bien pour un jeu de NES. Le héros est un peu clunky, les contrôles sont un petit peu 1980, mais... Ça reste que tu peux équiper toutes sortes d'affaires, tu peux aussi un petit peu farmer des monstres. Les monstres sont variés. Souvent, ils peurent aussi. Puis, à un moment donné, vers la fin, tu as l'impression d'être rendu très deep. C'est une histoire d'un gars qui doit escalader Yggdrasil, l'arbre du monde, pour essayer d'aller tuer la source du mal qui est en train de le corrompre et tout. Puis là, tu es envoyé par le roi dans tes erreurs les plus pires. Et avant de se lancer dans ce terrain basique, je veux souligner quelque chose qui me tient vraiment beaucoup à cœur parce que Danny Bédard, qui était dans la chicane, a quitté de manière irrémédiable, définitive, pour des raisons de différence au niveau créatif.
Pour la dernière fois.
La chicane, il a fait ça pour une deuxième fois. C'est la deuxième fois que c'est irrémédiable et que les différences créatives sont... impossible. Donc, probablement qu'en 2040, si on se continue avec l'équation, on devrait avoir un troisième album impliquant les Bédard et tout. D'ailleurs, il y a le frère de Danny Bédard qui est encore dans la chicane. Ça veut dire que c'est probablement la dernière fois qu'on va parler de la chicane sur Terrain Basique, le plus québécois des podcasts sur la machine à café.
Il faut jamais dire jamais.
Jamais. Écoute, comme Danny Bédard qui avait quitté grand fracas la chicane pour se consacrer à ses projets personnels et qui est revenu avec la chicane dernièrement, ben j'en ai reparlé juste après avoir dit qu'on n'en parlerait plus jamais. Ça va vite, hein, ça précise. Salut Emmanuel.
Allô!
Comment tu fartes?
Ah, ça farte fort.
Parfait. Ça, tu vas pouvoir d'ailleurs repasser ton blason de sphinx de secours de Terrain Basique à Jason Keys.
Ben oui, on leur sorti des vieux.
Faisait une bonne job, je trouve.
On leur sorti des vieux parchemins poussiéreux.
Là. Ben oui, on ramène le Sphinx Original Flavor. C'est un petit peu comme le McRib, hein, sauf que là, c'est Jason Keys qui est de retour. Salut, Jason.
Pour un temps limité.
Ben oui, ben on sait pas. On verra.
Bien le bonjour. Puis, avez-vous profité pendant que je n'étais pas là?
Écoute, on a profité pour pas parler de Magic Tantric.
Oui, effectivement. c'est une des affaires qui est arrivée. On a essayé aussi un draft, moi et Andy, à un moment donné. La prochaine fois, on va mettre quelqu'un qui est comme spécialisé à caller un petit peu, à décrire les cartes à chaque fois. Emmanuel a dit que c'était correct.
C'est vrai. Ouais, quelque chose de même.
Quelque chose comme ça.
Ben ça, le draft Kamigawa, Tommy, je t'ai entendu te vanter dans le dernier épisode de Terrain
Basique. Oui. À toutes les... Je connais ça, les drafts. Hein, je ne sais pas si vous êtes au courant. On en a fait un dernièrement. Ça a été facile.
facile.
J'aimais bien la fois que je chicanais le monde qui était mauvais gagnant.
mm-hmm, ouais. C'est important d'être constant.
Ben oui, il faut rester humble. Ouais. Et c'est ça. Hein, quand il y a un nouveau set qui sort, souvent, ça fait comme deux, trois. Il appelle ça quoi, des saisons, là, mais des périodes. Là, tu perds un stade, puis il faut que tu
reviennes. D'un mois, là, ouais.
Genre, là. Puis moi, souvent...
C'est à tous les mois.
Ah, c'est à tous les mois, je ne savais même pas. Donc, moi, souvent, ça fait comme un ou deux mois que je joue pas. Fait que c'est le fun de recommencer à drafter, tu sais.
Dans bronze, oui, c'est bon pour ton win rate, ouais.
Tabarnak, hein, je suis donc bien bon à ce jeu-là. Et ça a très bien été, ça a refait ça avec Kamigawa. Mais moi, je te dirais, plus que l'autre d'avant, là, les vampires, là, Innistrad, ouais. Plus que ça... Ouais, j'ai trouvé qu'il y avait plusieurs variétés de manières de gagner avec le draft.
C'est un set qui est très complexe à dire. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de petites pochettes de synergie, beaucoup de cartes qui se recoupent. Tu sais, on en avait parlé quand on avait présenté le set avec toutes les card types, les artefacts qui sont des créatures, dans des équipements, des enchantements qui sont des créatures, les sagas qui deviennent des créatures.
Ah, ça, c'est cool.
Il y a beaucoup de petites synergies qui se balancent, puis espèce de petits mini combos puis d'affaires qui vont
avec
ensemble.
Avec des ninjas, tu
bounces tes sagas, que tu veux trigger de nouveau. Voilà. Mais on a vu, j'ai pas réécouté notre épisode la semaine passée parce que je l'ai vécu, là, je suis curieux un peu d'avoir le portrait total, là, mais... je pense que ça a un peu illustré quelque chose sur le set, c'est que justement, c'est comme cette... Je veux pas dire nécessairement complexité, là, mais tu sais, qui est assez profond, il y a beaucoup de layers, il y a beaucoup d'étages dans le set. Ça fait que pour quelqu'un qui a jamais drafté le set ou qui est peut-être un peu moins habitué, c'est un peu plus difficile d'approche que peut-être les derniers sets qu'on a vus avant. Ça m'a rappelé un peu Kaldheim là, sur ce niveau-là, là, avec
Kaldheim, je sais pas.
Ben, c'est ça, puis des fois, tu bloques sur certaines mécaniques ou certaines affaires. Puis je pense que ça a fait aussi, ça a fait un certain clivage. Là, on a vu comme. Je pense que c'est la première fois qu'on avait autant de 2-0 dans toutes les match-ups qu'on faisait. Là, toutes les 2-3, il y en a.
Au musée, tu veux dire?
Ouais, au musée, ouais. Il y en a beaucoup qui ont fini 2-0.
C'est vrai.
C'est-tu parce que dans le fond, c'était un qui comprenait le set, qui jouait contre un qui le comprenait moins?
Oui, puis non. Je pense peut-être un peu de ça.
Peut-être plus comme quelqu'un qui était bon contre du monde qui était peut-être moins
ça,
bon.
C'est juste toi qui penses comme ça, Tommy. Mais je trouve que c'est un set qui est quand même. Il est le fun à drafter, mais j'ai eu de la misère à le jouer. Il y a des games qui sont longues. Là. C'est un set qui est grindy des fois. Là. J'ai fait un draft l'autre soir et je suis allé me coucher parce que je n'étais pas capable de le finir. Là. D'habitude, je vais drafter mon deck, je vais finir là, en une shot, je vais faire ma run de peu importe combien de victoires, 5-3, 6-3, 2-3, whatever. Puis là, j'avais plus l'énergie de le finir. Les games duraient 20-25 minutes chaque là, en best of one. C'est long. T'sais, tellement que je me suis rendu à une game, j'avais plus de cartes dans mon library. Puis j'ai decké mon adversaire, tu sais. On a fini, on avait plus de cartes, personne.
Ah ouais.
Ça a pris tout un tour de passe-passe, par exemple, pour gagner, parce qu'il y avait, sur le dernier tour, quand il y avait plus de cartes, sa dernière carte, c'était Bo Seiju, la saga, qui te permet sur le deuxième chapitre de remettre un land de ton graveyard sur le top de ton library, si tu veux. Quelque chose que tu fais rarement. Ben là, ça allait le sauver. Fait que je l'ai attaqué avec toutes mes créatures que j'avais plus besoin de bloquer avec parce qu'il mourrait au dernier tour. Et j'ai Ninjutsu, le Kappa Tech Wrecker, pour péter l'enchantement.
Oh, le Ninja Turtle! Ah, c'est bon!
C'est la seule façon qui m'a permis de gagner. Fait que, ben, j'aurais gagné naturellement parce qu'il y avait juste une carte de moins que moi, mais là, il avait trouvé comme une façon de, de s'en sauver. Mais,
Moi, j'ai vécu quelque chose parce qu'il y a une des dynamiques du set, c'est un petit peu de ça que je voulais parler au début, qui fait qu'il y a comme des pilotes, puis les véhicules sont peut-être mis de l'avant plus que tous les sets avant, hein, dans le sens que avec les pilotes, on amène comme une dynamique qui est volontaire là-dedans.
Ça faisait un certain temps qu'il n'y avait pas eu autant d'emphase là-dessus.
La dernière fois, c'est
Kaladesh.
Vas-y, Tommy.
Ouais, ouais, excuse. Et, une game, à un moment donné, ma première rare, ça a été le Mech Center, là, tu sais, celui que tu payes 5 puis t'exiles.
Le Mech Titan Core.
C'est ça, tu payes 5, c'est un 2-4 qui est crew pour 2, qui coûte 3 à sortir, même 2 à sortir, je pense. Puis, tu peux payer 5 et exiler lui et 4 artifact creatures du jeu pour mettre en jeu un token lifelink, ace, blabla, 10-10.
Flying, trample, lifelink, vigilance.
De ce petit gros monstre. Et là, je me suis dit, bon, ben, je vais essayer de faire une shot de pilote, de véhicule. Fait que j'ai pris ça comme rare en commençant. Et là, après ça, tu sais, j'ai juste pris toutes les créatures artefacts qui passaient. Je me suis ramassé, je pense que j'avais 5, les 1-4 flying qui coûtent 2 colorless, un bleu. Quand il tape, tu peux scryer. Je l'ai fait noir-bleu, fait que je me suis ramassé aussi avec 2 spells qui coûtent 1 colorless, 2 noirs, qui fait -2/-2 à toutes les créatures. Puis vu que la majorité des artefacts créatures du deck qui ont plus de toughness que de power, ben tu sais, moi j'avais pas peur de ça et j'ai fait un 7 victoires, 0 défaite. Souvent, je réussissais à sortir mon gros mec Titan, genre au 3e-4e tour. Puis si, l'autre abandonnait. Fait que mon mec Titan, à toutes les fois...
Bravo.
Patao! Puis une gamique aussi, c'est que vu qu'il est lifelink, tu sais, je bloquais pas avec mes monstres. Ressource, ta life. Fait que
tu te remets dans le game assez rapidement quand tu swings avec une 10-10 lifelink.
Lifelink, fait que... écoute, j'ai été excessivement surpris que ça fonctionne. Puis tu sais, vu que la gimmick du set était plus bleu-blanc pour les véhicules, pour les artefacts créatures, peut-être un peu moins. Il y a quand même beaucoup de bons artefacts créatures noirs. Mais je me suis ramassé. Écoute, j'ai été excessivement surpris de finir 7-0. Dans un bracket gold, là, j'étais pas comme en train de recommencer au début. Fait que ne mettez pas le Neon Dynasty dans un coin. Ne mettez pas ça dans. Tu sais, je pensais que j'avais fait le tour. Je pensais que j'ai drafté en Dynasty celle-là. Puis voilà, ça a été ma surprise dernièrement. Puis là, ben, je suis rendu avec un deck Marduk, là, 3 couleurs. Puis on va voir, je vous tiens au courant.
Hey.
C'est ça, j'ai plus rien à dire à propos de ça pour l'instant. C'est-tu correct?
Oui, oui, c'est parfait. C'est parfait. Quand même, sur un Tommy sur 5, tu lui donnerais combien de Tommy?
Pour le set de
Kamigawa, là.
Non, OK, de Neon.
À drafter.
Neon, oh, ben, moi je suis...
Voilà, c'est drafté.
Je te dirais, l'ancien que j'ai eu autant de plaisir à drafter, ce serait probablement... celui des Grecs là, de là, 2 ans. Là.
Theros.
Ah, Theros, c'était un excellent set à drafter.
J'avais aussi beaucoup aimé celui avec des learns, le Strix et Evans.
Ah, ok, ouais.
Oui, c'est ça. Ça serait probablement. Bon, ça, j'aime beaucoup ça. Voilà, c'est dit.
Qu'on le met dans les tops des drafts récents pour Tommy Goddard.
C'est ça, c'est ça, c'est ça. Le gars qui. C'est ça, c'est moi. C'est ça. Fait que, c'est quoi, ça nous amène à la
carte. Moi, je suis allé dans un peu moins compliqué.
Oh!
Il y avait eu récemment lieu le Boreal Community Cup, qui est la deuxième édition. Là. Vous vous rappelez, on en avait parlé l'année passée, la première édition qu'on avait faite. C'est un tournoi d'old school qui réunit toutes les villes canadiennes en équipe et la ville qui gagne remporte le jackpot d'argent pour faire une donation à son organisme de charité local. Donc, cette année, on avait une 50aine de joueurs. 56 joueurs qui étaient divisés en 2 pods de 30. On a ramassé 1234$ et c'est la ville de Québec qui l'a remporté haut la main. On les salue et ils ont fait le don à le Pignon Bleu qui est une, je crois, un organisme qui vient en aide aux sans-abri de Québec. La ville de Québec a démontré qu'ils étaient les top old school. Moi, ce que je voulais vous montrer, en fait, c'est que parce qu'on couronnait qui avait le deck le plus intéressant, le plus spicy. Puis c'est Derek Boyce de West Island à Montréal qui a fabriqué. Vous savez, à Magic, il y a un concept, c'est
Le Victory Spawning Bed.
Non, pas tout à fait. À Magic, t'as un concept très simple, c'est tu veux gagner le plus rapidement possible. On est d'accord?
Well, peut-être.
Ouais.
Tout non, mais généralement.
Je veux gagner. Des fois, c'est le fun de jouer avec.
Derek est allé dans le sens inverse. Lui, ce qu'il a bâti, c'est le deck pour tuer le plus lentement quelqu'un. Ce qu'il a construit, c'est en fait, on appelle ça une machine. C'est que son deck fonctionne comme une machine. C'est plus clunky qu'un combo là. Fait que la façon dont ça marche, son deck, vous voyez là, c'est bon, il y a des Mishra Workshop qui permet de caster. C'est un land qui tape 2 colorless pour caster des artefacts. Il y a du ramp, hein, il y a ses Basal Monolith, ses Mox. Son but là, c'est de caster des grosses bibittes le plus rapidement possible. Donc il y a des Tetravus qui coûtent 6, des Triskelion qui coûtent 6, des cavaliers, des chevals de bronze qui coûtent 7, des Colossus de Sardia qui coûtent 9. Comment?
Il y a personne qui a mis ever des chevals de bronze dans ses decks. Ever de tout.
Derek Boyce, il est allé là. Puis son but, c'est une fois qu'il a casté sa grosse, son gros artefact, ça lui permet de stabiliser, bien sûr. Il joue le Tomb of Alcor, qui est un artefact vraiment pas très connu, qui vient de légende. Cet artefact-là, il joue en trois copies. Tout ce que ça fait, c'est que ça te permet de transformer un permanent en carte bleue.
En carte bleue. C'est quoi
ce que ça fait?
Tu le manges, ça fait ça? C'est quoi au début?
Non, c'est tu peux le taper. Tu le tapes, okay. Puis until enough turn, une créature, un permanent devient bleu.
OK.
Ouais.
OK. Puis là, en transformant une de ces grosses bibittes que j'ai parlé tantôt, qui a des gros casting costs, en créature bleue, tu peux les sacrifier au Omarid Spawning Bed, qui est un enchantement de Fallen Empire, que quand tu sacrifies une créature, elle te crée un nombre de tokens égal au casting cost de la créature.
Ça, c'est le Victory Spawning Bed.
Oui. Puis, il sacrifie ses tokens à un Ashna d'Altar, qui sacrifie une créature pour créer deux mana colorless. Et ça te permet de power-ray au final le Fireball qui va tuer ton adversaire. Parce que si, dans le fond, tu sacrifies tes 9
tokens, ça me semble vraiment très compliqué. Ça fait 9 tokens.
Ouais. Mais non, mais c'est ça. Le but, c'est le plus lentement possible. Fait que Derek a réussi à gagner 2 matchs sur 5.
Impressionnant.
Avec ce deck-là. Je sais pas s'il les a gagnés, parce qu'il peut aussi fesser que ces gros monstres. Là.
Ben oui.
Mais il m'a pas répondu. Je lui ai posé la question s'il a réussi à faire ses fameux gros fireball. Mais écoute, ce deck-là, c'est tellement passé par Trois-Rivières pour aller à Montréal que ça méritait d'être mentionné à terrain basique. Surtout pour le Tomb of Alcor. Petit fun fact, Tomb of Alcor, c'est quand le set légende, c'était les amis de Donjon Dragon de Richard Garfield qui avaient créé ce set-là, puis la plupart des cartes faisaient référence à leur game de donjon.
Ouais.
Puis Richard Garfield, son personnage qui est un magicien à Donjon Dragon, il s'appelait Alcor, puis il y avait un tome. Tu sais, c'était son spellbook de magicien. Fait que cette carte-là était censée être le tome of Alcor, qui change les cartes en bleu. Mais l'artiste a mal compris au téléphone la commande, il a compris Tomb of Alcor, fait qu'il a dessiné.
Ah, les artistes, ça comprend rien jamais. C'est que tout le monde pue.
Ouais, c'est juste à vérifier si j'avais mon.
Alcor A-L-C-H-O-R. Ça coûte 4 colorless à sortir. 2 colorless, tu le tapes puis tu changes permanemment la couleur d'un permanent.
C'est Alcor Tomb. Ouais, c'est ça. Donc, il a dessiné une pomme au lieu de faire un. The color of your choice, c'est ça. Mais lui changeait en bleu parce que.
En bleu, parce que c'est ça que ça prend pour le Victory Spawning Bed.
Fait que c'est ça. Fait que c'était mon petite anecdote.
Ça vaut quand même 65$. Hein?
Oui, c'est ça. Ça peut
être. Toutes les légendes, ça doit valoir un peu rire.
Ouais.
Quand même. Ben, félicitations aux gagnants. Puis c'est quand même une belle cause de donner de l'argent.
Oui. 1200$, c'est pas rien. Là, juste pour jouer à Magic.
Ouais, en plus.
Sinon, écoute, on continue le prochain monthly old school et au bord l'adversaire le 24. C'est tous les avant-derniers jeudis du mois. Et on recommence tranquillement à jouer dans des bars. Éventuellement, il va y avoir le gros tournoi là, qu'on a. D'habitude, il était au mois de mars les autres années, mais là, avec les incertitudes, la COVID, puis le truc, on a décidé de repousser ça au mois de juin. Donc, ceux qui sont intéressés à jouer old school, là, le gros tournoi des Tundra Wolf Challenge 5 est censé avoir lieu l'un des samedis du mois de juin. Là. Ça va être annoncé quand que ce sera su.
Et Emmanuel en a parlé au début. Il a dit ça fait 2 mois qu'on parle pas de Magic Tantric. Jason revient, mon gars. C'est ça. Si tu donnes de l'argent aux pauvres,
juste pour ça
te permet de parler de ton affaire tantrique. Merci, Jason. Puis il y a une autre affaire que tu as parlé. C'est
les actualités.
Ah, on va vers les émanes actualités.
Oui, il y a Paul le jungle. Là.
C'est quoi ça?
Je sais pas. J'ai-tu un jungle? J'ai un jungle.
OK, je ferme ma gueule.
Non, Bond, il a fait un jungle.
Il y a un vrai jungle.
Écoute, quelques petites actualités cette semaine. Il y a eu un nouveau ban Unrestricted Announcement, principalement visant le chat. Le chat, Tommy, tu connais le chat qui est banni maintenant dans L'Urus. Pas mal tous les formats. L'Urus of the Dream Den, le compagnon qui te permet de ramener des cartes de ton graveyard.
Ah, le blanc noir, là.
Le blanc noir de Ikoria, qui était déjà banni pas mal partout.
L'Urus of the Dream Dead. Ouais, il est banni à. Trois colorless, je veux dire trois mana pour un 3-2. Compagnon Lifelink, à chaque fois ton tour, tu peux ramener un permanent de ton graveyard s'il coûte 2 ou moins.
Yes.
Merci, bonsoir.
Ouais, il est maintenant banni en Pioneer et en Moderne également. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont poussé un soupir de soulagement.
Ah ouais, hein?
En moderne, là, depuis je dirais là, depuis la sortie de Modern Horizon 2 l'année passée, là, qu'on avait parlé beaucoup, là, combiné les cartes qu'il y avait dans ce set-là, combiné avec l'Urus, ça l'a fait en sorte que Modern est vraiment devenu un format de casting cost 1 ou 2, pas plus. Puis l'Urus, vu qu'il est comme un genre de commander, là, tu peux tout le temps le caster. C'était à peu près là, comme la seule grosse carte. Puis tu pouvais autant les mettre dans des decks noirs ou blancs. Fait qu'il était un peu partout. Il se mélangeait vraiment bien avec le Mishra Bubble, là, qui est l'artefact qui coûte 0, qui permet de piger une carte. Fait que dans le fond, tu le sacrifiais, tu le ramenais avec le Lurus pour tout le temps piger des cartes. Il était dans les decks notamment de Pro West, là, de Burn. C'était vraiment une plaie, je trouve. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Ça va peut-être ralentir Modern, parce que je trouvais que Modern commençait à ressembler un petit peu trop à Legacy compétitif, là. Juste pour vous donner une idée, là, je l'ai ici, là, c'est la statistique, c'est les top créatures dans le format moderne, sur le top 10 de toutes les créatures qui sont jouées dans le format moderne, le plus jouées dans le format moderne avant le ban de l'Urus. Il y en a 9 que ça vient du set Modern Horizon.
Ouais.
T'en as une qui vient de Terror's Beyond Death, qui est le Titan Croxa. Mais à part ça, il n'y en a pas d'autres. T'as d'autres créatures de d'autres sets, mais les plus jouées, là. Fait que Modern était vraiment devenu le set de Modern Horizon, tu sais.
Ouais.
Quand tu dis que dans le top créature, la plus vieille date de janvier 2020, c'est un petit peu un petit problème pour un set qui se veut être comme quelque chose entre le Legacy et le Standard. Fait qu'on va espérer que ce ban-là va ralentir le format moderne. Fait que moi je salue ça. Là. Ça va peut-être me refaire jouer à moderne. J'avais un peu lâché dernièrement.
Voilà, puis juste pour toi, Jason, je sais que tu es un grand joueur de Popper. Là. Mm-hmm. Galvanic Relay qui est banni, Disciple of the Vault qui est banni et Expedition Map qui est unbanned.
Oh, hein?
Mets ça dans ta pipe. Fait que j'ai rien à dire là-dessus.
j'ai recommencé à jouer à Popper cet hiver. Parce que tu sais, ça fait ça, hein, depuis faire des terrains basiques, ça me libérait des soirées. Il y a un deck que j'ai commencé à jouer en Popper. Vous vous rappelez la carte c'est-tu Oni? Elle a été une carte de la semaine il y a 2 semaines. C'est la saga.
Avec les rats.
Ouais,
Okiba Reclaimer Red.
Vous en aviez parlé, là, ça coûte un noir, puis les deux premiers chapitres, tu draines de 1, puis après ça, il devient un 2-2 qui menace. Il y a un deck qui commence à faire parler de lui en Popper. C'est. En fait, c'est un vieil archétype, mais le Okiba l'a comme relancé, on dirait. Moi, je l'appelle, c'est le deck des mordés de vampires, hein, parce qu'il joue 12. les 12 cartes qui sont les mordés de vampires, c'est-à-dire.
C'est comme du burn noir, là.
Oui, ben l'archétype s'appelle Black Burn.
Bon,
le deck est vraiment simple. Il joue 4 Helm of the Vein, qui est un sorcery que tu draines de 3 puis tu peux le casser pour Madness. Il joue 4 Vampire Kiss, qui est un drain de 2, tu fais 2 Blood Token. Puis,
Les Blood Tokens, ça te permet d'enabler le Madness, c'est bon.
Exactement. Sovereign Bite, il joue 4 fois, tu draines de 3. Fait que ça, c'est comme le gros casting cost du deck. Mais tout le reste, là, c'est surtout du casting cost de 1 qui burn. Tu sais, le Bump in the Night, ton adversaire perd 3. Le Fruit of Tezzerus, ton adversaire perd 2, puis tu peux le escape pour 4. Pour le recaster une deuxième fois. C'est vraiment ça, là. C'est Blackburn. Il joue 4 Sign of Blood pour piger 2 cartes. Fait que, tu sais, c'est un deck vraiment. Il y a même le Piranha Marsh, qui est un land. Quelqu'un qui rentre taper, il fait 1 de dégâts.
Calvaire, hein? C'est un deck qui prend tous les raccoins, ça.
C'est un deck, un Glass Cannon, qui peut finir en beauté avec un Crip Rat, là, qui est un rat qui a Pestilence dessus. Mais le but de ce deck-là, c'est vraiment d'aller rapide, de tuer l'autre le plus rapidement, parce que dans le fond, à chaque tour, ton premier tour, tu fais, mettons, 1 ou 2 dégâts. À chaque tour, tu fais du dégât jusqu'à temps que tu tues l'autre. C'est très simple, mais c'est quand même Il n'est pas cher, ce deck-là. Là. Tu peux avoir ce deck-là en bas de 20$.
Il n'y a aucune défense. Là. T'as, t'as pas de monstre. Là. T'as, t'as
zéro défense. Zéro défense.
Tu peux gagner de l'énergie.
Mais t'as plein d'affaires qui fait gagner de la vie parce que t'as plein de drain.
Ouais, c'est ça.
Fait que c'est vraiment... il joue même Tyrant Choice là, qui vient de Conspiracy. Ça coûte 2. Pour dans le fond, c'est... Tu sais, ça, c'est une carte pour le multiplayer, mais en duel, c'est beaucoup plus simple. C'est les, à partir de toi, chacun des joueurs choisit... attends, je vais juste le sortir ailleurs pour mieux le lire.
T'as le choix entre torture ou vote, là. Non, tu votes pour torture.
C'est que choisir la mort ou la torture, si c'est la mort qui a le plus de votes, chaque joueur doit sacrifier une créature. Si c'est la torture qui gagne, chaque joueur perd 4 de vie. C'est un genre
que
de
le vote est égal. Fait que...
Quand le vote est égal, il va perdre 4 de vie, mais ça peut être aussi des fois utile pour tuer une créature.
Ben oui.
Généralement, ton but, c'est de burning.
Mais ça, c'est ben ouais, voyons, c'est super player, fort. Ben oui. C'est pour 2, tu fais 4 de dommages. C'est ben oui.
Okay. C'est la même chose que Flame Riff qui était dans...
non, parce que ça, c'est each opponent loses for life. C'est pas chaque joueur.
Ah, c'est vrai, c'est pas toi-même. Ouais, c'est vrai.
Ah non?
Ah oui, t'as raison.
J'ai
mais
raison.
Bref, tu perds beaucoup de vie avec ce deck-là, mais c'est, si vous voulez essayer le Pauper compétitif, c'est un bon début. Nous, on a commencé ça au FDB à Gatineau. C'est à tous les deux jeudis, on joue à Pauper. Le prochain est le 17 mars. Donc, si vous voulez, voulez jouer avec moi, vous êtes le bienvenu. Ça commence à 18h30. Le FDB sur la rue Saint-Raymond. Les gens de l'Outaouais connaissent ce magasin-là.
Amenez vos communes.
Amenez vos communes, parce que le format Pauper, c'est seulement des communes. Mais je trouve ça le fun là, que la carte de la semaine, vous vous demandiez l'autre jour, est-ce que ça allait voir du play en dehors de le Okiba Reconnery?
Ouais.
Vous vous demandiez si ça allait voir du play en dehors de...
On le savait! On le savait, Jason. Fais attention à tes affaires puis tes mots puis le reste. Moi puis Emmanuel, on connaît ça en sapristi. Hein, Magic, c'est le seul qui a failli me battre.
Ouais.
C'est vrai, ça, non?
Non, pas pour la dernière draft. Non,
ouais, non c'est ça.
Ben, on n'a pas coopéré. Mais là, c'est bien beau parler de Kamigawa et tout ça, là, mais ça va faire. Là, ça fait quoi? Ça fait un mois là, que c'est sorti. Là, c'est de la vieille nouvelle. Là.
Attends,
là, ça va faire.
Wow.
Magic, on dit, let's go. On va vous teaser avec le prochain set. On sort. Fait que ça va un peu lancer la deuxième partie de l'émission. Mais avant ça, juste dans le fond, ils ont annoncé toutes les dates qui s'en viennent pour Streets of New Capenna qui va sortir officiellement le Global Release le 29 avril. Les premiers, les previews ont commencé le 7 avril. Mettez ça à votre calendrier. Chose importante à noter, je pense que ça donne le coup d'envoi du retour du Magic en personne pour de vrai. La pandémie est finie parce que le pré-release de Streets of New Capenna aura lieu le 22 avril et le digital release aura lieu le 28 avril. Donc, ils ont comme inversé parce qu'avant, ça sortait sur Arena comme une ou deux journées avant. Là, ils ont vraiment le let's go, le pre-release, c'est vraiment le pre-release en carton. Puis après ça, Arena, vous pourrez jouer.
Encouragez vos Game Store.
Donc, oui, absolument, on vous encourage à aller faire des pre-release. Allez vous acheter un kit, allez jouer du Sealed, c'est toujours bien le fun. C'est une excellente façon de découvrir un nouveau set. Fait que c'est les dates qui s'en viennent là, pour New Capenna. Ils nous ont annoncé, ils nous ont même teasé quelques petites cartes dont on vous parle de l'autre côté de la carte de la semaine.
Ah oui, parce qu'on va carte de la semaine, t'en as parlé tantôt, hein, Jason, t'as parlé de l'adversaire. C'est un petit peu l'entité qui gère ça. C'est à l'adresse.
Au 4303 Sainte-Catherine-Est.
Et voilà, on les remercie beaucoup. On va écouter une dose de Beatabone dans nos erreurs les plus pires. Moi, j'ai hâte de savoir ce qu'elle que t'as choisi. Là, parce que moi, je l'ai pas choisi. Je sais même pas c'est quoi la carte de la semaine.
Écoute, on sait hein, ce qui est vraiment à la mode ces temps-ci, c'est les formats singleton. Donc, on pense à Commander. On pense même, écoute, la communauté old school, ils ont commencé à jouer du singleton old school. Fait que c'est vraiment, là, je te dis, c'est la mode là, de trimmer les decks. Puis tu n'as plus le droit d'avoir une ou deux ou trois ou quatre cartes. C'est une copie de chaque carte dans ton deck. Moi, ça me fâche, mais bon, les joueurs, c'est ça qu'ils jouent, fait que je suis obligé de jouer avec ça. Fait qu'aujourd'hui, je vous propose une carte de multiplayer qui permet de punir tout ce monde-là.
Un arnaque!
C'est
Jason est fâché.
Vexing Arcanix, qui est la carte parfaite pour les formats singleton. Vexing Arcanix, ça vient de Ice Age. C'est un artefact qui coûte 4 colorless. Et tu peux ensuite payer 3 colorless, taper ton Vexing Arcanix, choisir un joueur autour de la table et tu lui dis « Nomme une carte ». Le joueur nomme une carte. Il révèle la première carte de sa librairie. Si c'est la carte qu'il a nommée, il la met dans sa main. Mais vu que c'est du singleton, généralement, il va se tromper. Le Vexing Arcanix, il fait 2 de dégâts.
Putain.
Et tu mets la carte dans le graveyard.
C'est pas, vous allez me dire, c'est pas grand-chose, mais moi, je vous dis, là, la valeur ajoutée de cette carte-là, dans une soirée grindy de multiplayer, c'est que ça, t'as tout le temps comme type du mana que tu sais pas où mettre là, à chacun de tes tours. Fait que tu peux crisser 3 mana là-dedans à la fin du dernier tour, du dernier qui a joué, au lieu de jouer d'un counterspell. Puis, tu peux t'amuser à torturer l'adversaire du moment. Il y a tout le temps une espèce de petit suspense au moment où la personne se prépare à piger sa carte, à révéler sa carte. Puis, généralement, il foire. Puis là, tout le monde autour de la table fait comme « Ou, généralement, le gars, il va être locké comme la mort. Puis, il va se mettre à chaque fois que tu es fait, il révèle un basic land. Genre, il dit « Mon
deck est monocouleur. » C'est ça qu'il faut dire. Même quand tu joues un deck à cartes,
à moins d'être un vrai baller.
Ouais, c'est ça.
L'autre façon de s'en servir, c'est moi, je la joue dans des decks que j'ai beaucoup de scrying, puis des brainstorm, des cartes comme ça. Donc, tu sais, que tu permets des decks où tu prépares là, tes 2-3 prochains tours. Le Vexing Arcanix se transforme en fait en Giant Diatome. C'est que tu vas nommer, vu que tu sais quelle carte s'en vient, tu la nommes, ça te permet de te la mettre dans ta main pour 3 colorless. C'est dans une game en multiplayer, c'est non négligeable. Donc, c'est simplement ça. Là, c'est une petite carte le fun si vous voulez pimenter vos soirées de multiplayer.
Voilà, c'est dit. D'aller dans le Ice Age, c'est quand même assez couillu. Hein, tu niaises pas avec ça.
Ah, ouais.
Drôle de dessin, par contre. Là, on sait pas trop c'est quoi qui fait mal à quoi. Là, c'est, en tout cas.
Ah, ben non, mais écoute, c'est une espèce de sorcière. Là, et on voit qu'il y a comme des roches en arrière. Puis elle tient une espèce de truc lumineux dans sa main. Fait que, tu sais, ils ont regardé ça. Ils l'ont refait dans la 8e édition. Elle était un petit peu plus. C'était le même symbole qu'elle avait dans sa main, mais ils l'ont mis dans un vase. Tu sais, parce que quand tu sais pas comment représenter un artefact, tu le mets dans un bol.
Ouais, classique. Y a-tu d'autres artefacts que ça?
Il y a des bols, hein.
Ils sont dans des bols, ben il y en a plein.
Non, c'est juste des bols. Il n'y a pas d'autres.
Juste
choses.
Des bols. Le Gossian machin, il avait tout pété. C'est un bol.
C'est un bol.
C'est un bol. Voilà. Merci beaucoup, Jason. On va s'en aller à la dernière partie d'émission. J'ai l'impression qu'on va en apprendre sur New Capitch Naggers. Avant, par contre, une petite dose de Beatabone. Avant d'aller vers le Beatabone, j'aimerais prendre quelques instants pour rappeler à tout le monde qu'on est dans le mois de mars. Et le mois de mars, c'est le mois de la sensibilisation aux chutes dans les escaliers. C'est encore la première source de journées de travail manquées, les blessures dans les escaliers. C'est encore la première source de visite à l'hôpital, les personnes qui se font mal dans les marches. Donc, oui, on rit, hein, on a plein de plaisir, mais le mois de marche, il y a du dégel, ça fonce, ça regèle, ça devient glissant. C'est pas pour rien que le mois de marche s'appelle le mois de marche. C'est pour sensibiliser l'humanité en entier à son prédateur premier, c'est-à-dire les escaliers qui se nourrissent de votre souffrance. Donc, ça vaut la peine de rappeler à ceux que vous aimez et à vous-même une fois de temps en temps que faire attention dans les escaliers, ça marche.
Ça marche.
Voilà, hein, on s'en va quoi? On a du gros preview, là. C'est quoi? Je vais avoir une nouvelle carte.
Tommy, j'ai une nouvelle à t'annoncer qui est vraiment grave.
Magic est mort!
Magic est mort!
Oh! Comment j'ai fait pour deviner?
Vive Magic!
Les commentaires, là, je m'amusais à lire les commentaires sur Magic the Gathering Québec, hein, on les salue. les gens sont fâchés. Le fanbase est fâché.
Ben voyons donc.
Parce qu'ils ont fait un set de Magic dans lequel il y a des voitures, des trains, des cabarets, des gens qui dansent le charleston.
Arrête!
Des cigarettes sur des portes-cigarettes.
Mais me semble dans Caladin,
ça doit, ça doit pas être des
spatiaux, ça.
Ouais, mais ça l'avait tué Magic aussi.
Ça doit. Ah. Mais qu'est-ce qu'ils veulent qu'il y ait dans Magic, genre juste des épées et des pagnes,
des chevaliers. De mort.
Ça fait longtemps qu'on a fait le tour. Là.
Ouais. D'autres chevaliers. Street of New Capenna, c'est. Oups, là, excusez-moi. Et voilà. Donc, ils ont sorti tout le cycle des Basic Land, ce que vous voyez à l'écran.
Ils sont magnifiques d'ailleurs. Magnifiques. Si vous aimez l'art déco, c'est l'architecture, c'est capoté, c'est grandiose.
Moi, ça m'a remis dedans. Là, on voit ici, ça, c'est le Basic Plane. Le Basic Plane. On voit les trains, c'est la gare de New Capenna. Puis, tu sais, vous allez vous demander, New Capenna, est-ce qu'il y a un Old Capenna? Oui, il y a un Old Capenna, je vais vous en parler dans quelques secondes. Donc, New Capenna, c'est un nouveau plan sur lequel on va visiter dans un mois. C'est un plan basé sur l'art déco, puisque certains appellent le diesel punk. Hein, il y a le steampunk qu'on connaît. Ouais. Le diesel punk est un style d'art qui reprend un peu là, les années 30. Dans le fond, là, des moteurs à diesel, des trains, des dirigeables, des avions avec trois hélices. Et des statues d'anges là sur le bord d'un gratte-ciel de 200 étages hors déco. C'est le monde. Et vous voyez là, les costumes là, les costumes.
Gangster.
Gangster style.
Candy.
Ouais. Même le symbole là, du set là, c'est.
Ben, le symbole du set, je sais pas si tu l'as sorti là, mais c'est plus que. Non mais ok, le symbole du set sur les cartes, c'est littéralement un point américain là, c'est un brass knuckle là.
Puis il y a un des logos là, c'est la statue qui est en avant de, tu sais, les grosses Rolls Royce là, les grosses voitures là.
Ouais.
Puis ça, on va sûrement le voir, là, c'est sur le booster pack. Fait que c'est un set qui est basé sur dans la ville de New Capenna. Ils ont pas encore une ville qui a été construite par des anges. Mais bien sûr, ça fait référence au nom de Los Angeles. Hein. Une ville bâtie par des anges, mais qui a été takeover par des démons.
Bon, tabarnak!
Fait que la ville qui avait été bâtie par les anges, c'était le Old Capenna. Puis on sait que le mana dans le monde de New Capenna s'appelle le Halo. H-A-L-O.
Comme le jeu vidéo.
Ouais, mais je pense pas, non. Je pense à plus référence,
ben oui, peut-être, avec ben la l'aura des
anges. Des anges. Puis là, on est comme, j'imagine, plusieurs siècles après le takeover des démons. Puis, dans le fond, la ville est séparée entre 5 familles. Cinq familles rivales qui sont divisées selon les. C'est comme dans Alara, c'est les Shards. Dans le fond, c'est. Je crois que c'est deux couleurs alliées et une couleur ennemie, c'est ça? C'est une couleur ennemie avec. Il y a une couleur ennemie avec deux couleurs alliées.
Ouais.
Dans le fond, le premier des clans, c'est les Obscura. Les Obscura, ça dit dans la description, c'est des magiciens et des mystiques qui se servent là, du blackmail, de la déception, les distractions, les illusions, puis des choses cachées. Ils sont pas mal dans l'ombre. Ils disent qu'ils orchestrent des scénarios et manipulent les gens pour leur bénéfice. Ils tiennent toujours une façade de vie normale, mais en réalité, là, c'est comme les schemers. C'est les gens de Dimir, de New Capenna.
Qui tirent les ficelles en arrière. Là.
Ils ont montré, ils ont amené, ça c'était attendu depuis longtemps, le fameux cycle des triomes.
Je l'avais prédit.
Le fameux
cycle qu'il avait annoncé le set là, qui allait compléter les triomphes. Bon, c'était pas un gros stretch parce qu'il avait déjà annoncé que ça allait être un set bâti sur les trois couleurs. Là.
Ouais, puis, on s'en doutait un peu, mais
il en manquait cinq. Là.
C'est dans le fond les triomphes, c'est sont les trois basic land type. Hein. Ben tu vois comme dans le cas du Raffin Tower qui est la tour des Obscura, une plaine island swamp, puis toutes les triomphes tu peux les cycler pour trois. Dans le fond, t'es mis dans le graveyard, tu piges une autre carte. Moi, selon moi, ça fait parce que dans Ikoria, il y avait une grosse mécanique de cycling. On s'en rappelle, hein, les fameux decks de cycling. Moi, je vous call à soir qu'il va y avoir beaucoup de cycling dans New Capenna.
Tu penses?
Absolument. Ben, okay. S'ils ont mis la mécanique cycling,
Il moi, je pense que c'est juste parce qu'il y a eu. Puis il pouvait pas mettre les cinq autres triomes avec pas cycling.
Le cycling est une des mécaniques les plus populaires parce qu'elle te permet de te rattraper dans le game et de retard.
Okay.
Ça, c'est du card draw gratis. Si tu piges un land, tu le cycles, t'en piges un autre. Bon, écoute, là, ça, c'est les Obscura, c'est les blancs, bleus, noirs, ce qui était les Esper dans Alara. Puis, leur symbole, là, vous surveillerez ça sur les autres cartes. C'est une espèce de dague dans une main, hein? On voit sur les
baisers. Ça fait aussi une serrure, le tout, là, mais tu sais.
C'est une serrure, t'as raison.
Il y a une dague, une main, une serrure, un petit.
Ah ouais, il y a quelque chose, là.
Lis-nous le favorite text, Tommy, de Raffin Tower, qui est leur gratte-ciel.
Raffin's Tower! The Obscura's cloud spire dominates the skyline. Its eye a beacon of progress that sees all.
Donc, ouais, ça, c'est les comme, ils ont l'air comme omnipotents, les Obscura. Ensuite, on a les Maestros. Les Maestros, ils sont décrits comme des Old Money Vampires, c'est-à-dire c'est des gens que leur fortune remonte à Old Capena, hein, l'ancien régime, mais ils sont encore riches de nos jours. C'est les tripeux d'or, c'est ceux qui vont faire là, des... qui investissent dans des NFT. Les Maestros, c'est aussi les assassins, c'est ceux que tu peux engager pour assassiner du monde que tu veux faire avancer tes affaires dans la ville. On voit le Xander Lounge, j'imagine Xander c'est leur chef, où est-ce qu'on voit l'espèce de salle là, très velvette rouge avec des gros divans là, sur la couleur bleu, noir et rouge, hein, le fameux Grixis.
On y va Grixis, ben, on a encore du bleu noir, là, fait que ça va être encore des maestros. Manipulateurs de tabarnak.
Ouais, puis leur symbole, c'est deux couteaux qui se croisent sur une coupe avec du sang. Fait que ça va être les vampires. Selon moi, ils vont reprendre les couleurs. Là, ça va fitter en fait avec Innistrad. Il va y avoir des vampires rouges, bleus, puis noirs. Ensuite, on a les Riveters. Ça, c'est les prolétaires. Hein. Les Riveters, c'est ceux qui construisent les trucs. C'est genre les ouvriers, le roadie brute force.
Ah oui, ils peuvent briser des buildings aussi facilement que des rotules.
Oui, ils font de la démolition et de l'intimidation. Puis leur chef, Ziatora, c'est un dragon. Ah. Donc on va sûrement avoir un dragon légendaire vraiment fort. Les couleurs, c'est rouge, vert et noir. Les couleurs Jund, Swamp Mountain Forest. Puis on voit que leur land triomphe, là, c'est un ring de boxe clandestin dans un entrepôt. Donc, tu sais, c'est très... mais tu sais qu'on pense là, les syndicats dans les usines dans ce temps-là. Là.
Ouais. Moi aussi, je voyais ça. Je voyais le chien qui est gros puis qui est méchant dans Bugs Bunny là, avec le petit chien qui tourne autour. Là, puis là, le gros chien, il marche de même avec un cigare. Là,
Ou plutôt, lis-nous le flavor text du ring de boxe, Tommy.
Restless riveteers can always find a sparing partner in the sprawling treads of warehouse. C'est ça qu'il se passe.
Okay, ils tassent les boîtes, puis ils mettent le ring de boxe, puis let's go.
C'est pas pire, ça. Moi, j'aime ça, je me reconnais. Je suis à l'aise dans un entrepôt plein de boîtes. Là. Je n'ai vu des ninjas se faire tuer là-dedans, puis des
nappés,
puis tout. Ouais. Je suis à l'aise.
Ensuite, on a les cabarettis. C'est comme les druides. En même temps, c'est eux qui font les parties. Ils sont plus proches de la nature. Ils sont rouges, verts et blancs. Tout le monde veut être invité à leur dance hall. Ils ont des cabarets de danse. C'est très, très là, le côté divertissant un peu là, d'une grosse
mégapole.
Wow. Puis ils sont capables eux, ce qu'ils sont capables de faire, c'est influencer l'opinion publique des masses. Pour tout le temps avoir les affaires de leur bord.
Parce que c'est les drug dealers, Jason.
C'est les druides.
Ah ouais.
Tu penses qu'ils
meurent? Ben oui. C'est les druides. Regarde donc.
Lis un peu, peut-être.
Remonte un petit peu ton petit texte, là, tu vas
moi,
voir.
Quand on est hors des chevaliers, là, je suis tout perdu.
The party never ends if you keep paying.
Écoute,
entre les lignes est assez spacieux. Là, on pourrait jouer au curling dedans, tranquillement. <là.
rire> Jetmere Garden, hein, c'est leur land, montagne, forêt, plaine. Lis-nous le flavor text.
The park-like cabaretti's grounds offer rest, food, and the perfect place to shake off a tail. Shake your tail, shake, shake, shake.
Non, c'est pour se débarrasser de quelqu'un qui te suit.
Ah ouais, ou peut-être ça aussi. Ouais.
C'est ça.
C'est quelqu'un qui
fait. Moi, je voyais la danse plus.
Moi, j'ai vu ça, oui.
Moi, je voyais parce que c'est clair qu'il va y avoir plein d'animaux anthropomorphes. Là. On va voir tout à l'heure. J'arrive à mes derniers, c'est les brokers. Ça, c'est le cabinet d'avocats. Ils sont verts, blancs et bleus. Leur chef, c'est un démon. Et ils ont dans leur lore, là, ils ont un Doomsday Prophecy, une prophétie qu'à un moment donné, ça va être la fin du monde pour New Capenna. Quand il n'y aura plus de Halo, hein, le fameux Magic Mana. Là. Fait qu'on s'imagine, les Planeswalkers vont probablement avoir rapport là-dedans. Puis dans le fond, là, c'est quand tu veux régler des affaires légalement, tu vas voir, tu sais, on voit le Spara Headquarter. Hein. C'est le blanc, bleu et vert. Lis-nous le favorite text to me de Spara Headquarter.
S'il vous plaît.
S'il vous plaît.
C'est correct, t'aurais pu m'envoyer chier. To most, the Nido Sanctuary is an office complex. To the brokers, it's a vault of secrets.
Fait que j'imagine, si sont les avocats des cinq autres clans, mais ils connaissent tout, t'sais. Fait que c'est peut-être à ça que ça fait référence. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de card draw dans les autres. Puis ils nous ont révélé parce que, comme dans, on se rappelle, il y avait ça dans Ikoria, il y avait ça aussi dans. Tarkir, les Ascendancy, c'est les enchantements
qui sont... Il y en a aussi dans Ravnica?
Non, jamais dans Ravnica, parce que Ravnica, Ascendancy.
Ouais, ben, OK. Pas le Ascendancy à trois couleurs, mais il y avait le Simic Ascendancy. Là.
Ah oui, t'as raison, excuse. Bon, ben, je ravale mes paroles. Mais écoute, ils nous ont révélé le Broker Ascendancy, puis on voit déjà que... tu sais, on voit une espèce de chat botté avec son chapeau, là, puis un rhinocéros en arrière en complet cravate. Fait que, tu sais, ça s'annonce très, très, très varié dans les animaux anthropomorphés. Donc, Ascendancy, vert, blanc et bleu, un enchantement. Au beginning de ton end step, tu mets un +1/+1 counter sur chacune de tes créatures que tu contrôles et un loyalty counter sur chaque planeswalker que tu contrôles. Dans le fond, ça fait comme un genre de proliferate. Là. Lis-nous le texte, Tommy. On voit l'image là, que tu t'en vas signer un contrat avec les brokers. Là. C'est les brokers.
Check l'or à côté, ça fait tellement. C'est quoi, c'est Miron, là, celui
qui. Ben, moi, ça me rappelle plus Picasso, là, genre Guernica.
Ouais, c'est très Picasso, c'est, en fait.
Donc, ça, c'est cubiste, là.
On est dans le cubiste, en tout cas.
C'est un peu.
This is the beginning of a beautiful friendship and more importantly, a profitable one. And now, sign here. C'est ça, signe-là. C'est le rhinocéros.
Ah oui, on va être des bons amis, mais signe ici.
C'est ça qu'on fait, c'est.
Puis, ben écoute, les autres affaires qu'on a révélées, c'est les basic plans. Là, on voit que ça torche. Hey, là,
tellement beau, Métropolis, ça, là.
Oui, c'est très Fritz Lang. Hein. On voit la plaine là, avec ses gros dirigeables puis les lumières. Le swamp, là, il y a une espèce de canot avec des grosses statues.
Vous irez voir ça sur notre page Facebook.
Oui, ben, on va mettre le lien dans la description du show. Là. Donc, vous allez pouvoir tout admirer ça. Checkez-moi les montagnes, comment c'est trop cool.
C'est même pas une montagne pour vrai.
Ouais, c'est un paquet de gratte-ciel, là. Ça fait pas de montagne.
Pas de montagne pour vrai.
Bon, fait que, ouais, ça promet. Il n'y a pas beaucoup d'autres informations, là. Mais
on a eu un petit teaser.
Avec Magic qui est mort, on ne sait pas si on va en avoir d'autres. Là, mais sinon, ça sort le 7 avril en pré-machin, tranquillement. Puis le 29, on va pouvoir jouer. Là. Ben, je veux dire, on commence à avoir des spoilers plus le 7 avril.
Le 7 avril, le 22 avril pour les pré-releases en papier seulement. Et le 28 sur Arena et MTG.
Merci. Oh. C'est quoi ça? Ça veut dire ça? On peut pas en parler à terrain basique de tout ça?
On peut.
OK, c'est bon. On va essayer MTGO.
Il y a aucun des trois qui le joue. Moi, je jouais beaucoup à MTGO avant. Mais...
C'est Magic Excel, là.
Magic Excel? C'est quoi ça? Ah, c'est parce que les dessins sont pas beaux puis il faut que tu pèses F2 tout le temps, genre?
Ouais, entre autres, ouais. L'interface est... Très intuitif.
Pour défendre MTGO, il y a plein de formats, beaucoup plus.
Ben oui.
Arena devrait faire pareil. Mais ça demanderait de l'argent, fait qu'ils ne vont pas le faire. Mais sur MTGO, tu peux jouer à Pauper, tu peux jouer à Modern, tu peux jouer à plein de formats le fun. Tu peux jouer en multiplayer, ce que tu ne peux pas faire à Arena.
Bon, ben voilà, c'est dit. MTGO a gagné. Tous ceux qui pensent le contraire, vous vous trompez. Magic est mort. Grosse semaine. Merci Emmanuel, merci Jason. Et merci aussi particulier à Martin Godette qui s'occupe du montage de la patente de podcast.com. Merci aussi à Radio H2O qui nous héberge. Merci à Bone qui nous fournit des beats. C'est pas mal ça. On est disponible sur Spotify et mon nom est Tommy Godette. Et en plus de gagner beaucoup de drafts qu'on fait ici au musée, Je vous souhaite à tous et à toutes d'être le moins manascou possible.
De la famille H2O Web Media.